Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les droits des homosexuels en Autriche, les mesures anti-pollution des grandes capitales européennes, les Levantins de Turquie, à cheval entre l'Orient et l'Occident, sans oublier la dernière spécialité gastronomique irlandaise, le sandwich aux chips, c'est notre menu du jour dans Accent d'Europe. Les homosexuels auront bientôt le droit d'adopter en Autriche. La plus haute juridiction vient de donner raison à un couple de femmes qui avait porté l'affaire devant la justice. C'est désormais au gouvernement qu'il revient de légiférer avant 2016. Une victoire et un symbole pour les associations de défense des droits homosexuels, mais il ne faudrait pas pour autant en déduire que l'Autriche est un des pays d'Europe les plus ouverts sur les questions de société. L'homophobie au quotidien est une réalité dans le pays. Écoutez ce reportage à Vienne de Nathanaël Vitran.
Pour Eva et Anastasia, tout a commencé un après-midi d'hiver de manière très banale par une camomille, ou plutôt sans camomille. Les deux jeunes femmes se sont donné rendez-vous au café Prückel, un café traditionnel centenaire très prisé des Viennois. En arrivant, elles se saluent et comme tous les couples du monde, elles s'embrassent sur la bouche. C'est assez pour que le serveur refuse de les servir. Comme l'expliquent les jeunes femmes, la responsable de l'établissement les met ensuite à la porte en des termes peu amènes.
Elle nous a dit que ce que nous faisions était dégueulasse et que notre place était dans un bordel, pas dans un café traditionnel.
Scandalisées, les deux jeunes femmes n'en sont pas restées là. Avec l'aide des associations LGBT, elles ont organisé une manifestation devant le café en question. Une semaine plus tard, plus de 2000 personnes ont répondu à l'appel. Au micro, les deux jeunes femmes prennent la parole.
Je suis ici au nom de ce transsexuel qui est confronté à tant d'obstacles dans sa vie professionnelle. Je suis ici pour cette femme bisexuelle qui doit sans arrêt répondre à la question « Mais tu ne peux pas choisir à la fin ?» Et nous sommes ici au nom d'un couple de lesbiennes mis à la porte d'un café pour un simple baiser comme les couples hétéros s'en font tous les jours.
De leur côté, les partisans des gérants du café ont tenté d'insinuer que les deux jeunes femmes étaient allées plus loin qu'un simple baiser. Un homme politique d'extrême droite a parlé carrément de Zungenpritschler, ce qui donne en traduction littérale « éclaboussure de langue », un mot inventé pour l'occasion. La manifestation de défense des homosexuels a eu lieu à la mi-janvier. Les attentats de Paris étaient encore dans toutes les têtes. Rainer arborait un panneau « Je suis Zungenpritschler ». Il explique pourquoi.
Je suis ici pour dénoncer les pratiques homophobes du café Prückel. Puisque tout est « Je suis Charlie » depuis quelques jours, je voulais être quelque chose que les politiciens de droite n'aiment pas.
Entre les discours et les interventions, la musique techno battait son plein. Si les températures n'avaient pas été aussi basses, on aurait pu se croire à la techno-parade. Rainer était satisfait de voir qu'autant de monde s'était mobilisé.
On est en 2015. Nous sommes post-Conchita Wurst. Les gens ont conscience qu'il y a de l'injustice partout et aussi à Vienne. Ils ne sont pas contents de ce qui s'est passé et ont ressenti le besoin de venir manifester. C'est bien, les mouvements civiques ne sont pas morts.
À la tribune, les témoignages et les chants ont laissé la place à quelques hommes politiques venus apporter leur soutien aux manifestants. Plutôt que de les écouter, Tatiana préférait embrasser sa copine. Ici, elle est au milieu des siens, mais l'homophobie, elle connaît bien.
On le vit tous les jours. Il suffit qu'on s'enlace ou qu'on se tienne par la main dans la rue pour qu'on se fasse insulter. Si on sort en boîte toutes les deux, on devient tout de suite un objet sexuel. Des types bizarres nous tournent autour et nous suggèrent un plan à trois. Ils ne comprennent pas que deux nanas puissent s'embrasser parce qu'elles en ont envie et pas pour leur faire plaisir.
Parmi les manifestants, on pouvait lire une banderole « Les supporters contre l'homophobie ». Car si le phénomène imprègne la société tout entière, il est particulièrement virulent dans le milieu du football. Lorsqu'en septembre 2013, l'équipe nationale autrichienne s'est déplacée à Munich pour jouer contre les voisins allemands, les supporters autrichiens ont insulté bruyamment la DFP, la Fédération allemande. Fuller TFB, traduction TFB PD. Dans les stades, le phénomène est malheureusement banal, en Autriche comme ailleurs. Mais pour une fois, la FIFA a décidé de prendre des sanctions et infliger une amende à la fédération autrichienne. Kurt Warter connaît bien le sujet, il est l'un des responsables de Fair Play, une organisation qui lutte contre le racisme et l'homophobie dans le milieu du foot.
D'après mon expérience, les chants homophobes sont très courants dans les stades, pas seulement en Autriche, mais à travers l'Europe. Et 95% des incidents homophobes restent impunis. Alors, probablement, la fédération autrichienne s'est demandé « pourquoi nous ?». Mais il faut bien commencer quelque part, et au moins, cela a ouvert un débat. Et désormais, on s'intéresse vraiment à la thématique de l'homophobie.
Pour lutter contre l'homophobie et la discrimination dans et en dehors des stades, l'Autriche a pourtant des atouts à jouer. David Alaba, joueur star de la sélection autrichienne, fils d'immigrés régulièrement confrontés au racisme, et Conchita Wurst, chanteuse à barbe devenue superstar depuis qu'elle a remporté l'Eurovision l'an passé. Alors, pourquoi pas les imaginer main dans la main entamer l'hymne national autrichien un soir de match ?
Quelles mesures pour rendre l'air plus respirable dans nos capitales européennes ? À Paris, la maire Anne Hidalgo veut interdire dès le 1er juillet prochain les poids lourds les plus polluants et par la suite les voitures. Des mesures applaudies par les écologistes, même si la capitale française a une longueur de retard sur d'autres métropoles européennes, comme va nous l'expliquer Daniel Vigneron du site d'information myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors quelles sont les mesures prises par la maire de Paris, Anne Hidalgo ?
Dès juillet prochain, les poids lourds de plus de 14 ans ne pourront plus circuler dans Paris de 8h à 20h. Et dans un an, en juillet 2016, ce sont tous les véhicules les plus polluants, essence ou diesel, voitures, camions ou motos, qui seront interdits de circulation dans Paris intramuros.
Et cela va-t-il faire baisser réellement la pollution de l'air ?
Probablement. L'exemple de Berlin est à cet égard édifiant. La capitale allemande a instauré depuis 5 ans une zone à basse émission dans le centre-ville à l'intérieur de ce périmètre. Seuls peuvent circuler les véhicules ayant une vignette verte, prouvant qu'ils émettent un minimum de gaz polluants. Résultat, les émissions polluantes, notamment les particules diesel, ont été réduites de moitié dès la première année et Berlin arrive en tête des grandes villes européennes pour sa qualité de l'air. Il est vrai que les fraudeurs sont rares. Tout véhicule non habilité à circuler, pris sur le fait, écope d'une amende de 40 euros et le conducteur perd un point sur son permis.
D'autres capitales européennes ont-elles également interdit les voitures les plus polluantes ?
Berlin, comme d'autres villes allemandes et Paris aujourd'hui, n'ont fait que reprendre un système d'interdiction des véhicules les plus polluants mis en place à Stockholm et dans les principales villes de Suède. Cela paraît être la solution la plus efficace et la plus immédiate pour limiter la pollution.
Quelles sont les autres solutions, Daniel ?
Il y a deux moyens, celui du péage à l'entrée de la ville et celui de la circulation alternée. La première capitale européenne à avoir instauré un péage a été Londres. Depuis 2003, pour pouvoir circuler de 7h à 18h du lundi au vendredi dans le centre de la capitale britannique, il faut s'acquitter d'un péage de 8 euros par jour. C'est gratuit uniquement pour les résidents dans le centre et les utilisateurs de véhicules électriques ou à très faible émission. Concernant la circulation, cela a effectivement décongestionné le centre-ville. Avec 70 000 voitures dans la zone payante chaque jour, la circulation y est plus fluide. Mais bon, pour la qualité de l'air, c'est très décevant car cette zone payante ne concerne que 3,5% de la circulation du Grand Londres. De plus, les voitures essence individuelles dans le centre-ville ont cédé la place à des taxis et des bus diesel plus nombreux qui crachent leurs particules cancérigènes.
D'autres pays en Europe ont adopté ce péage urbain ?
Oui, en Italie, pas dans la capitale mais à Milan, où un péage urbain a été mis en place. De plus, la circulation alternée des véhicules ayant une immatriculation paire puis impaire s'est généralisée depuis longtemps dans la plupart des grandes villes italiennes lors des pics de pollution. C'est le cas à Rome également. Mais ça n'était plus suffisant alors que la ville enregistre régulièrement des taux records de pollution en Europe. Depuis l'année dernière, la mairie de la cité éternelle a instauré des dimanches écologiques où le trafic est pratiquement interdit dans le centre historique. Bon, le problème est celui du respect de ces règles. Et malgré un certain progrès, Rome reste une ville sévèrement polluée.
Et à Athènes, une des villes les plus polluées du monde, qu'en est-il aujourd'hui ?
Athènes, dans le passé, en particulier dans les années 80, était effectivement tristement célèbre pour son néphos, un nuage de couleur jaunâtre plombant la ville, mélange nocif d'oxyde d'azote, de CO2 et de microparticules. La conduite alternée mise en place en 1982 a amélioré un peu la situation, surtout d'ailleurs depuis que les infractions sont passibles d'une amende de plus de 300 euros avec la suspension du permis de conduire. Mais en fait, c'est surtout la récession économique qui a été efficace pour réduire la pollution en engendrant une réduction de l'activité et de la circulation. On peut penser que Alexis Tsipras, le nouveau chef du gouvernement, commencera donc par relancer l'économie avant de se préoccuper de la pollution.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
La Turquie fait-elle partie de l'Orient ou de l'Occident ? Le débat est inépuisable alors que le pays cherche toujours à négocier son ticket d'entrée pour l'Union européenne. Des explications, on peut en trouver auprès de la petite communauté des Levantins d'Istanbul. Levantins, un terme qui désignait sous l'Empire ottoman les résidents étrangers. Beaucoup ont quitté le pays avec la naissance de la République en 1923, mais certains sont restés et veulent se présenter aujourd'hui comme le trait d'union entre l'Europe et la Turquie. Dans les rues d'Istanbul, dont certaines façades d'immeubles gardent encore les traces de leur présence, Anand Lauer les a rencontrés. Donc là, Rinaldo, nous sommes à Pera.
Oui, nous sommes dans le quartier Levantin. Ici, c'était les petits champs, de l'autre côté, c'était la rue de Pera. Et tous les bâtiments étaient concentrés dans cette petite région. Et toutes les rues adjacentes, c'était le lieu de l'habitation des Levantins. Et pour commercer, pour travailler, ils descendaient à Galata.
L'Istanbul que décrit Rinaldo Marmara, lui-même ne l'a jamais connu. Entre la place Taksim et la tour de Galata, pendant des siècles et jusqu'au début du XXe, c'était l'Istanbul levantin. On appelait ainsi les Européens qui, à l'époque byzantine puis ottomane, s'installaient en Orient, dans l'Empire et surtout dans sa capitale. Ils étaient vénitiens d'abord, génois, français, allemands, hollandais, anglais et le restaient. Ils vivaient dans l'Empire sans en être sujets, y commerçaient, s'y mariaient, de génération en génération. Rinaldo Marmara, qui a beaucoup écrit sur le sujet, les distingue par exemple des minoritaires de l'Empire. Les Grecs, les Juifs, les Arméniens, sujets du sultan ottoman. Les Levantins, eux, avaient un statut d'étrangers, dotés de privilèges judiciaires et fiscaux. Ils avaient leur langue, au pluriel, leurs églises et une identité dont Rinaldo, né ici il y a 65 ans, mais qui n'a toujours eu qu'un passeport italien, se réclame encore aujourd'hui.
Les Levantins sont ceux qui ont fait la synthèse de l'Orient et de l'Occident. Je ne me sens pas tout à fait européen et je ne me sens pas aussi un oriental.
Et quand vous allez en Italie ?
Ben là-bas, je suis considéré comme un Turc. L'expliquer ça en Europe, c'est un peu difficile. Parce qu'ils me disent « Ah, tu es né en Turquie ». Je dois essayer de les expliquer. Même en étant né, je n'ai pas la nationalité. Ok. Tout est passato bene in Anatolia.
L'apogée des Levantins, c'est le 19e siècle. Mais avec la Première Guerre mondiale, la fin de l'Empire et la naissance de la République, les Levantins quittent massivement les terres de leurs ancêtres. On abolit leurs privilèges, on adopte des lois qui leur interdisent certaines professions. 100 ans plus tard, il reste peut-être 2000 ou 3000 Levantins à Istanbul et à Izmir et des traces de leur passage sur les façades de plusieurs immeubles et palais. Mais pour Rinaldo Marmara, la contribution levantine à ce qu'est aujourd'hui la Turquie va bien au-delà de l'architecture.
On a été les représentants disons, des cultures européennes, soit italiennes, soit françaises, de la langue. Aujourd'hui, si les Français arrivent ici, aujourd'hui, les industries à travailler, c'est grâce aussi à l'image que nous avons donnée de la France ou de l'Italie en Turquie. Mais le problème, c'est toutes ces grosses sociétés aujourd'hui qui deviennent multinationales, ils oublient un peu cette réalité. Et quoi qu'ils arrivent, c'est grâce à eux que tout se fait. Ça ne se fait pas du jour au lendemain de connaître un pays, non ?
Cette Europe, justement, comment ce latin d'Orient, attaché à sa double culture, la perçoit-il ? La Turquie y a-t-elle sa place ?
Toujours je compare l'Empire ottoman comme le précurseur de l'Union européenne d'aujourd'hui. Et à l'intérieur même de l'Empire ottoman, chaque communauté vivait séparément, avec sa langue, ses écoles, ses hôpitaux, ses maisons de retraite, son cinéma et son théâtre. Alors moi je pense que certainement elle a sa place, puisqu'elle a bien donné l'exemple au XIXe siècle déjà l'idée d'une Union européenne.
Mario Antonio Ebgim est un autre de ces Levantins, d'origine française par son père, vénitienne, monténégrine et grecque par sa mère. À 36 ans, il a déjà vécu une dizaine d'années en Europe avant de revenir récemment dans son pays natal, la Turquie. Européenne ou pas, lui non plus ne se pose pas la question.
Historiquement, nous faisons partie de l'Europe. Au début des années 1900, la Turquie était considérée comme l'homme malade de l'Europe, non ? Donc déjà, elle faisait partie. Je pense que l'Europe ne connaît pas la Turquie. La Turquie connaît beaucoup plus l'Europe. L'élan pour entrer dans l'Union européenne a permis à beaucoup d'étudiants et à beaucoup d'universités de promouvoir des programmes politiques européennes. Ça prendra du temps, mais moi, je préfère que les choses soient beaucoup plus lentes.
Du temps, alors que les dirigeants turcs reprochent justement à l'Europe de les faire attendre depuis 50 ans. Mais Mario explique qu'il faudra encore beaucoup d'efforts pour que les peuples se connaissent mieux de part et d'autre du Bosphore. En attendant, il se considère comme chanceux, lui, le chrétien d'Orient, d'Istanbul.
En tant que Levantin, très chanceux d'avoir cette culture, parce que je parle avec deux mondes, tranquillement. Culture européenne, culture orientale, c'est connaître l'islam, de démontrer comment vit un chrétien aussi ici. C'est une richesse. C'est le dialogue qui est très important. Istanbul est une ville qui, selon moi, doit être la capitale du dialogue, soit interreligieux, soit international. Elle a hérité de trois grandes cultures. Elle doit continuer avec ça.
Ces arguments en faveur de l'adhésion, on les entend rarement dans la bouche des dirigeants turcs qui défendent la candidature de leur pays. Quant aux Levantins, partie prenante de l'histoire ottomane, ils ont été oubliés, alors même que le pouvoir actuel revendique pleinement et fièrement l'héritage de l'Empire.
It's nice, basically. It's pretty tasty. I'm a fan. It's great. It's classic.
On vous a déjà parlé dans cette émission d'un bar de Londres qui ne sert que des céréales de petit déjeuner dans un bol de lait. Eh bien, on continue notre festival gastronomique et anglo-saxon avec le sandwich aux chips croustillant à souhait et vendu au Simply Crispy de Belfast. Dégustation avec Sébastien Duval.
Deux tranches de pain, un peu de beurre et des chips. Voilà la recette assez sommaire d'un crisp sandwich. Depuis le 12 janvier dernier, un café de Belfast en a fait son unique spécialité. On peut à la fois y choisir son type de pain et ses chips, parmi une trentaine de saveurs. Choix numéro 1 des clients, les chips cheese and onion, dans un petit pain local assez épais, le Belfast Bap. Le tout pour à peine plus de 5 euros, avec un potage pour faire passer le morceau. Car pour ne rien vous cacher, le sandwich aux chips est plutôt sec et bourratif. Mais à en croire ce couple de trentenaires, ce serait un peu la Madeleine de Proust des Irlandais.
Tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ça fait ressurgir de vieux souvenirs d'enfance, tous les sandwichs aux chips de ma jeunesse. Je me suis dit que j'allais essayer et je ne regrette pas, c'est très bon.
C'est un snack vraiment typique d'Irlande du Nord. Je suis donc surprise que personne n'y ait pensé avant, c'est vraiment une bonne idée.
Tout est en fait parti d'un site satirique nord-irlandais. L'ouverture d'un café à céréales à Londres a inspiré à ses rédacteurs un article parodique annonçant la même chose à Belfast, avec les fameux sandwichs aux chips à la place des cornflakes. L'idée s'inscrivait un peu dans la même mouvance, simpliste, anticonformiste et branchée. Elle a d'ailleurs séduit le patron d'un café de Belfast, et deux semaines plus tard, la fiction devenait réalité. Le café Simply Crispy a attiré beaucoup de monde à son ouverture, mais l'affluence devrait logiquement décroître une fois passé l'effet de curiosité. Ses responsables se donnent jusqu'au mois d'avril avant de revenir à une cuisine un peu plus saine.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe et sur Facebook. Dans quelques instants, un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Pour notre part, on se retrouve dès demain.